Alors certains ici se rappellent peut-être qu'il y a quelques semaines, nous nous sommes interrogés avec Jean, l'évangéliste, sur les raisons de l'incrédulité d'une grande partie des fils d'Israël. Nous avions alors formulé ainsi la réponse de Dieu à cette question, notre question, parce qu'ils n'avaient opposé à son amour fou qu'indifférence ou mépris. Dieu avait donc fini par les repousser, leur retirant du même coup tous ses dons, à commencer par le premier d'entre tous, celui de la foi. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient incrédules. Ils ne pouvaient plus croire. Ils ne pouvaient plus croire. Douloureuse révélation dont nous avons vu très vite qu'elle avait comme brisé le cœur de Jean, comme celui d'ailleurs de tous ses amis avec lui. Pas assez cependant pour les réduire au silence, témoin l'appel quasi désespéré qu'il adresse presque aussitôt, je parle de Jean, à tous ses compatriotes, dans les quelques versets que je vous propose de lire maintenant et de méditer. Ce sera l'occasion pour nous de conclure notre étude du chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 12, donc, nous lirons les versets 44 à 50. Jean 12, versets 44 à 50. Quant à Jésus, il s'écria : Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Notre texte du jour, donc, un texte qui se présente d'abord comme un choix de citations, extraites sans doute de discours divers prononcés par Jésus en diverses occasions, mais qui ont ceci en commun qu'elles renvoient toutes à la nécessité pour tous, et donc pour nous aussi, s'ils ne veulent pas connaître le même sort qu'Israël dans sa majorité, de faire au plus vite acte de foi en Jésus. Un texte qui permet ensuite à l'évangéliste de développer brièvement deux thèmes essentiels, la mission de Jésus et le devoir de tout homme. Deux thèmes que je propose d'examiner maintenant dans cet ordre. Et pour commencer donc, la mission de Jésus. Rappel utile. Se fondant sur le témoignage de Jésus lui-même, que Jean a suivi pendant 3 ans, Jean nous présente cette mission comme une mission tout à la fois de révélation, d'illumination et de salut. De révélation d'abord. Notre texte sur ce point est on ne peut plus clair. Si Jésus est venu jusqu'à nous, et il est venu jusqu'à nous, c'est afin de nous révéler, de nous dévoiler le Père. À peine a-t-il écrit les premières lignes de son évangile, que Jean insiste déjà sur cet aspect fondamental de la mission de Jésus. Je pense ici au chapitre 1er de son évangile, verset 18, je cite, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, Jésus donc, qui est dans l'intimité du Père, Jésus qui est dans l'intimité du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Affirmation de la plus haute importance que l'apôtre n'a aucun mal à asseoir, tant il est vrai que Jésus, tout au long de son ministère, n'a pas cessé de répéter quelle était bien sa vocation première. Manifester le Père, le rendre visible, lui, le Dieu, invisible. D'où ces déclarations nombreuses, dont certaines sont reprises ici dans notre texte, et dans lesquelles Jésus affirme qu'il est venu moins pour se faire connaître lui que pour faire connaître le Père qui l'a envoyé. La mission du Christ, donc, une mission de révélation, avant tout. Certes, ce Père que nul n'a jamais vu et que nul ne peut voir n'a pas entendu que son Fils s'incarne pour commencer de se révéler aux hommes. Dès les temps les plus anciens, en effet, Dieu a tenu à ce que le plus grand nombre connaisse qui il était. Aussi s'est-il comme livré à eux une première fois par les prophètes. Mais cette révélation initiale, toute précieuse qu'elle était déjà, restait limitée. De fait, elle se devait d'être bientôt complétée. Et c'est pour qu'elle le soit que Dieu, dans les derniers temps, choisit d'envoyer son Fils parmi nous, pour que lui l'exprime enfin comme personne n'avait pu le faire jusque-là, et comme personne ne le ferait plus après lui. Parfaitement. Parce que ce Fils, lui, n'était pas seulement son porte-parole, il était sa parole même. C'est-à-dire, pour reprendre l'admirable formule de l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, l'expression même de sa personne. En sorte qu'en lui, le Fils, ce Dieu que nul n'avait jamais pu contempler, nous l'avons découvert, enfin, dans toute la plénitude de sa beauté. Dans le Fils, en effet, résidait, déclare en substance l'apôtre Paul, toute la richesse des perfections divines, toute la richesse des perfections divines. C'est pourquoi Jésus pouvait répéter « Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Mais c'est pourquoi aussi qui veut connaître Dieu aujourd'hui doit forcément regarder au Fils en qui son Père s'est pleinement et définitivement révélé. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu. La mission de Christ, donc, d'abord une mission de révélation, mais aussi une mission d'illumination. Verset 46, « Moi, dit Jésus, la lumière. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Moi, dit Jésus, la lumière. » Ce n'est pas la première fois qu'il se désigne ainsi devant ses disciples. De fait, Jésus revient souvent à ce mot « lumière » lorsqu'il s'agit pour lui d'expliquer à ses disciples qui il est vraiment. Et pourquoi cela? Sans doute parce que par ce simple mot de « lumière » se trouve tout d'un coup évoqué l'un des aspects les plus glorieux de sa mission, à savoir précisément l'illumination. Pour bien comprendre cette vocation spécifique de Jésus, il faut se souvenir de la façon dont nous est constamment présenté le monde dans la Bible, comme gisant tout entier dans les ténèbres. Depuis que par sa faute, l'homme, dès les toutes premières heures de son histoire, s'est aliéné le Dieu lumière, source unique de clarté et donc de vie, il n'y a pas de vie sans lumière. Il a beau ouvrir tout grand les yeux, il ne voit rien. Rien qui compte, en tout cas. Nulle part, la moindre lueur qui pourrait l'aider à trouver sa route. Pas la moindre clarté pour lui rendre ne fût-ce qu'un peu d'espoir. Abandonné de Dieu, l'homme est voué à la nuit. À moins qu'il ne finisse par apercevoir et par accueillir bientôt cette merveilleuse lumière que Dieu, dans sa grâce, a choisi un jour de lui rendre, et qui, depuis près de 2000 ans maintenant, brille sur lui. Je veux dire, son propre Fils, Jésus. Le Christ, dont l'Écriture nous dit qu'il est, lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 3 toujours, le resplendissement même de la gloire divine, le resplendissement même de la gloire divine. C'est car la lumière lui a bien été rendue en Jésus, la vraie lumière, dont Jean nous rappelle qu'elle est prête aujourd'hui à illuminer quiconque voudra bien se laisser éclairer par elle. Oui, ce Fils, rayonnement de Dieu, est venu envoyé par son Père pour être la lumière du monde. Et voici qu'il nous propose, en éclairant pour nous le visage de Dieu, de nous rendre à l'espérance. Car le visage du Père, que nous ne pouvions pas même entrevoir, mais qu'il s'offre aujourd'hui de nous découvrir en quelque sorte, ce visage n'est pas celui d'un Dieu définitivement blessé et à jamais irrité contre nous. Non, mais au contraire, celui d'un Dieu extraordinairement miséricordieux, qui n'a jamais, jamais cessé de nous aimer. Et qui a voulu prouver son amour en prenant un jour sur lui de revenir jusqu'à nous, en la personne de son Fils, pour nous restaurer dans sa communion. Et nous savons que ce Fils est venu, et que ce Fils, dans un geste d'une générosité stupéfiante, en acceptant de payer à notre place le prix de notre rébellion, nous a ouvert la voie qui ramène au Père, et donc, à la vie. Oui, ce visage que Jésus, le Christ, en venant à notre rencontre, nous éclaire, est le visage d'un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce qui ne désire plus désormais qu'une seule chose, que nous nous laissions éblouir par son amour et que nous nous accueillions par la foi le don qu'il nous fait en Jésus-Christ, je veux dire la vie éternelle. C'est donc ainsi que Jésus nous illumine en éclairant pour nous rien de moins que le cœur même de Dieu. Le cœur même de Dieu. Il est temps d'en venir au troisième et dernier aspect de sa mission, tel que notre texte la résume, une mission de salut. Verset 47, je cite, « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Le témoignage de Jésus sur ce point est donc limpide et va bien dans le sens de ce que nous avons dit jusqu'ici. Si le Fils est venu parmi les hommes, ce n'est pas pour les condamner. Cela, de toute façon, n'a pas servi à grand-chose, dans la mesure où tous les hommes s'étaient déjà, depuis longtemps, eux-mêmes, condamnés. Non, si le Fils est venu parmi les hommes, c'est au contraire pour les arracher à leur condamnation et les sauver. Et je pense ici à ce texte de la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1, verset 15, cette parole est certaine et elle est digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mission grandiose, la plus belle qui pouvait lui être confiée par le Père, mais une mission écrasante aussi. N'allait-elle pas exiger de lui qu'il renonce à lui-même, qu'il accepte d'être humilié, qu'il souffre, et pour finir, qu'il offre sa vie en sacrifice? Une mission qu'il accepta pourtant, sans hésitation, par amour pour son Père, par amour pour nous. Mais se pose maintenant la question, cette mission de salut, Jésus l'a-t-il pleinement achevée? Laissons répondre ici ceux qui, d'une manière ou d'une autre, furent les témoins de l'œuvre accomplie finalement par le Fils. Philippiens 2, versets 6 et suivants, je cite là encore, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, explique le prophète Ésaïe, nous l'avons dédaigné et nous l'avons compté pour rien. Or, Il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait, l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il s'est accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Oui, Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Et nous pourrions multiplier les témoignages qui tous attestent que Jésus est bien allé jusqu'au bout de la mission que lui avait confiée son Père. Qu'il est bien mort à notre place, c'est qu'en mourant sur la croix, il a bien payé notre dette. Qu'il est donc bien aujourd'hui ce qu'il voulait être. Le sauveur du monde, le seul grâce auquel nous pouvons maintenant être sauvés. Qu'à lui notre sauveur soit pour les siècles des siècles louange, honneur, gloire et puissance. Mais le temps passe et il nous faut évoquer maintenant l'autre thème développé dans ce passage, à savoir le devoir de tout homme. Le devoir de tout homme. Nous pourrions, je crois, le résumer ainsi sur le fondement de notre texte par deux mots, foi et obéissance. Foi et obéissance. Car c'est bien de foi et d'obéissance qu'il est surtout question ici. Pour commencer donc de foi, car le premier appel qui parvient à l'homme est toujours un appel à la foi. Verset 46. Quiconque croit en moi, ne reste pas dans les ténèbres. Nous le rappelions tout à l'heure, l'homme pécheur est perdu. Il est même si totalement perdu qu'aucun effort de sa part, fût-il le plus louable, ne parviendra jamais à le tirer d'affaire, si je puis dire. Ou, pour reprendre une image biblique, à l'arracher aux ténèbres qui l'environnent et dans lesquelles, inéluctablement, il sombrera un jour définitivement. Un seul geste, en réalité, peut encore le sauver, celui qui consistera pour lui à se tourner vers Christ et lui dire tout simplement oui. Oui, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tout ce que tu as jamais dit est vrai, absolument vrai, parce que tes paroles ne sont pas les tiennes seulement, mais celles de Dieu. Oui, je crois. Je crois que tu as raison lorsque tu dis de moi que j'ai offensé Dieu et que je l'ai offensé si gravement que tout espoir de vie m'est désormais interdit. Oui, je crois. Je crois surtout que lorsque tu me dis que tu es le seul à pouvoir me sauver, parce que le seul sacrifice d'un homme juste peut expier ma faute, et que ce sacrifice, toi, le juste par excellence, le seul juste en fait, tu l'as offert en mourant toi-même sur le bois, tu dis vrai. Je le crois. Il ne peut y avoir de salut qu'en toi. Tu es vraiment le seul sauveur. Oui, je crois. Je crois tout cela. Et plus encore, je crois aussi, et enfin, que ce salut éternel, tu me l'offres aujourd'hui gratuitement pour que je l'accueille, que je le saisisse et que je le goûte. Oui, je crois cela aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'accepte le don inestimable que tu me fais. J'accepte, confondu, mais heureux et reconnaissant, le pardon de toutes mes fautes. Et avec ce pardon, la faveur éternelle de Dieu à laquelle il me donne droit. Je suis parfaitement conscient de n'avoir jamais mérité le moindre des bienfaits divins. Tant je sais absolument mon indignité, j'accepte pourtant aujourd'hui de ta main qui me l'offre le plus grand et le plus beau de tous, la vie éternelle, sous le regard bienveillant du Seigneur de toute la terre. Voilà en fait en quoi consiste le geste de la foi. un geste dont nous ne rappellerons sans doute jamais assez, en même temps que la simplicité, l'urgente nécessité. Tant en effet que nous n'aurons pas accompli ce geste, il est possible que certains ne l'ont pas accompli ce matin, tant en effet que nous n'aurons pas accompli ce geste, tout espoir de salut de notre part restera vain. Nous demeurons dans les ténèbres, irrémédiablement destinés à la mort. Dès l'instant, au contraire, où nous l'aurons accompli, nous serons définitivement rassurés. Parce qu'assurés de notre salut. Verset 46, « Quiconque croit en moi ne restera pas dans les ténèbres. » Il y a cette première déclaration, nous pourrions associer bien d'autres paroles de Jésus sur le même thème. Je n'en citerai qu'une presque au hasard, Jean, chapitre 5, verset 24. « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, qui croit, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » C'est un fait. Il est passé de la mort à la vie. Parole que devait reprendre un peu plus tard et Pierre et Paul, pour ne citer qu'eux. Pierre d'abord, qui s'adressant à Corneille, l'officier romain, lui dit « Le pardon des péchés est accordé par son nom, entendre ici le nom de Jésus, à quiconque met en lui sa foi. » Paul ensuite, qui répondant à son geôlier, qui lui demandait comment faire pour être sauvé, lui dit « Crois au Seigneur Jésus. » Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dès l'instant donc où nous accomplirons ce geste de la foi, nous nous serons en possession de la vie éternelle du roi fait de nous ses amis. Et plus rien ne pourra plus nous séparer de cet amour inouï qu'il nous a manifesté en son Fils et dont nous serons devenus pour toujours, je dis bien pour toujours, les cibles privilégiées. Et je demande, mes amis, avons-nous tous accompli ce geste ? Où la vie nous est-elle encore étrangère ? Alors je sais que la plupart d'entre vous l'avez déjà accompli, mais je ne suis pas sûr que tous l'aient déjà fait. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, et ce salut s'accueille par la foi. Mais le moment est maintenant venu pour nous de considérer ensemble le second appel que Jésus, et au travers de lui, Dieu lui-même, adresse à tout homme, et qui est l'appel à l'obéissance. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Plaidoyer pour une foi obéissante ». L'obéissance. Que dit Jésus de celui qui, verset 47, « entend ses paroles, mais ne les garde pas, et non pas n'y croit pas », comme le traduit, à mon avis, faussement, la seconde 21. Verset 48, celui-là, affirme Jésus, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Malheur donc, non plus seulement à celui qui ne croit pas en Jésus, mais maintenant aussi à celui qui ne se soumet pas à lui. Cette parole même à laquelle il n'aura pas conformé sa vie, cette parole au dernier jour, le jugera. Et le condamnera. Pour lui non plus, donc, point de salut. Car le chemin de la vie éternelle passe également par le respect du commandement. Verset 50, notre traduction, son commandement est vie éternelle. Que personne donc ne se méprenne pour avoir part à la vie, il faut aussi obéir. Gardez ses paroles, dit Jésus. Gardez ses paroles. Le verbe qui apparaît ici est très fort. Il signifie à l'origine surveiller. Mais surveiller comme on surveille un détenu, par exemple. Dans une prison de haute sécurité. D'où le sens de garder qu'il a acquis. Garder au sens propre le plus souvent. Mais garder au sens figuré aussi, comme c'est le cas ici. Seul Donc celui qui gardera fidèlement son enseignement, l'enseignement de Jésus, s'y soumettant sans réserve et avec joie, héritera finalement le salut. Deux anciennes paroles de Jésus qui confirment ce que je viens de dire. Matthieu chapitre 19, verset 17, je cite, « Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Car, Jean chapitre 8, verset 51, « Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, lui ne mourra jamais. » Celui qui garde sa parole. Et là encore, je pose la question, qu'en est-il de nous aujourd'hui, ce matin, mes amis ? Je m'adresse ici tout particulièrement à ceux parmi nous qui, en réponse au premier appel de Christ, ont fait à un moment donné de leur vie profession de foi, Je crois. Qu'en est-il de nous ? Nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur. Ça, c'est déjà pas mal. Mais l'avons-nous dans le même temps et avec le même enthousiasme accueilli comme notre Seigneur ? Notre vie est-elle vraiment comme un pur produit de son enseignement ? Pouvons-nous, en toute honnêteté, rendre aujourd'hui ce témoignage que rien désormais ne nous réjouit autant que d'obéir à ses commandements ? Et d'accomplir sa volonté. Ou nous faut-il reconnaître, dans les larmes peut-être, que nos pensées, nos paroles, nos actes sont encore bien loin de répondre aux exigences premières du Maître. Et que jusqu'à ce jour, en tout cas, nous ne nous en sommes point trop inquiétés, parce que jamais le désir de tout lui soumettre ne nous a réellement consumés. À ceci, écrit l'apôtre Jean aux églises d'Asie, à ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Ce n'est pas moi qui l'écris. Celui qui dit « je le connais, mais ne garde pas ses commandements » est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, en lui vraiment, l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Alors, je dis, plaise à Dieu que jamais nous n'ayons à reconnaître, à nous reconnaître dans cette terrible description de l'apôtre Paul. Je pense à la lettre de Tite, chapitre 1, verset 16, je cite, « Ils font profession de connaître Dieu ». Mais par leurs œuvres, ils le renient. Ils sont abominables, rebelles, inaptes à toute bonne œuvre. Ceux que j'arracherai finalement aux ténèbres et à la mort, a dit en substance Jésus, seront toujours ceux qui croiront et obéiront. Foi et obéissance. Puisse notre Dieu accorder aujourd'hui à tous ceux parmi nous qui n'ont pas encore reçu la grâce de croire en son Fils, mais également de lui obéir, de lui faire toute confiance pour leur salut et de soumettre leur vie tout entière à sa loi. Alors seulement nous saurons tous, et notre assurance ne pourra plus nous être ôtée, que nous appartenons, nous aussi, à la foule innombrable déjà des rachetés. De ces millions d'hommes, de ces millions de femmes, dont l'apôtre Jean, encore lui, pouvait dire à Patmos, « Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Glorieuse espérance pour tous ceux parmi nous qui ont cru et qui obéissent. Que le Seigneur nous accorde la grâce de croire et celle de lui obéir. Amen.